Des nouvelles du Brésil. Notícias do Brasil. Les nouvelles du Brésil, ce sont des chroniques de la vie quotidienne ou politique recueillies et enregistrées depuis Olinda, dans l'état du Pernambouc, juste à côté de la capitale Recife. Deux jours seulement après avoir posé le pied au Brésil, on s'entretient avec Benja, musicien brésilien résident en France et actuellement au Brésil, qui nous livre son opinion sur les préoccupations de la société brésilienne et plus particulièrement dans l'état du Pernambouc.
Benjamin Rouchi, Benjamin Rouchi. Bonjour, bonsoir, bon après-midi.
Toi, t'es musicien, tu viens d'ici mais tu habites en France, c'est pour ça que tu parles bien français?
Je sais pas, je parle encore bien français, apparemment c'est un truc impossible d'aboutir. Mais ça fait mon histoire avec la France à 17 ans et ça fait 13 ans que j'habite dans la Drôme.
Mais là on va parler du coup du Brésil et du Pernambouc où on est à Olinda à côté de Recife, donc la capitale de l'état du Pernambouc, d'où est originaire Lula.
Lula, il est originaire du département de Pernambouc, mais dans la campagne, il y a 6 heures dans les terres. Mais il est plus reconnu par le département de São Paulo, où il était un leader syndicaliste à l'époque de la dictature militaire. Et c'est par là qu'il est devenu un leader social reconnu. Donc il a passé, je pense, 40 ans dans les disputes présidentielles. Il est arrivé au pouvoir, si je ne me trompe pas, en 2000, où il a eu 2 mandats. Après, sa succession s'est faite avec Dilma, qui c'était une camarade de bataille contre la dictature aussi. Dilma, elle est devenue connue parce qu'elle a fait le séquestre du ambassadeur américain pendant la dictature militaire, et c'est ça qui a permis de libérer plusieurs prisonniers qui l'a mis dans cette panorama politique. Et à être élu au deuxième mandat, c'est là que l'histoire d'extrême droite commence, reprend. C'est qu'elle a eu un coup d'État diplomatique, donc par les députés, lié avec les sénateurs, mais surtout les députés, sénateurs, et la troisième instance, que c'était le judiciaire. Mais un truc un peu orchestré, parce qu'au début, c'était Temer, qui c'était son vice-président, donc Michel Temer, qui a passé 2 ans de mandat et après a donné succession à Bolsonaro, qui c'était le leader de l'extrême droite, qui a un peu monté ses coups armés déjà dans l'élection de Dilma. Donc après Bolsonaro, il a eu 4 ans. Il faut savoir que pendant que Bolsonaro était avant les élections, il a eu un autre coup armé après le coup d'État, qui c'était un coup judiciaire, avec des juges de première instance. Ce n'était pas des juges fédérales, c'était des juges, on va dire, un juge normal du sud des pays, un département un peu reconnu pour l'extrême droite, et un peu, même qui a hérité les migrants de la Deuxième Grande Guerre. Donc il y a beaucoup de nazis qui s'enfuyaient à ces départements-là. Pas pour généraliser avec le peuple, j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas aussi, très sympas, mais c'est vrai que pendant tout ce qui est arrivé, ils étaient pas mal responsables de tout ça. Donc pendant que Dilma elle a eu le coup d'État, Lula il était mis en prison. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune preuve de ces transactions. Et c'est ça qui a mis l'extrême droite au pouvoir. Donc l'extrême droite, elle n'a pas réussi à avoir le pouvoir. Donc ils ont fait un coup d'État juridique. Et après, ils ont fait un autre coup d'État juridique pour mettre Lula en prison. Pendant les recherches, Lula, même en prison, il avait le double des votes que Bolsonaro. Mais bon, comme il était en prison, Bolsonaro l'a gagné. Une fois que Bolsonaro l'a gagné, il a mis le juge de cette affaire comme ministre de la Justice. Qui plus tard demandé de sortir parce que Bolsonaro mettait trop la main dans l'affaire du ministère de la Justice. Donc il disait que Bolsonaro était corrompu et lui, il est sorti comme candidat à la présidence. Bon, il n'a pas eu de succès. Bolsonaro il a perdu pour Lula et Lula il est revenu au pouvoir. Donc il y a un an, il commence son deuxième mandat là.
Et ça doit être différent pour lui de la première fois où il est venu président. Qu'est-ce qui a changé du coup? Qu'est-ce que les gens ils attendent, tu penses, du retour de Lula?
Je pense que le Brésil est dans ce mouvement mondial d'incertitude où on est très polarisé. Je ne sais pas si on utilise cette expression en France, mais au Brésil, c'est le mot du moment. Le Brésil, il est vraiment polarisé. Ça a partagé tout.
Tu peux définir les deux côtés un peu caricaturalement, justement. C'est un peu comme aux États-Unis, libéraux, démocrates, avec Trump d'un côté, les autres. Ça ressemble ou pas?
J'ai commencé à parler de la dictature militaire parce que Bolsonaro, c'est aussi un agent de la dictature militaire. Il faisait partie aussi, il était déjà député pendant la dictature militaire. Donc du coup, au Brésil, c'est un peu spécial. C'est vraiment, on va dire, les familles qui ont hérité des colons, avec un pouvoir énorme des Américains qui aujourd'hui, c'est prouvé, qui ont orchestré toute la dictature militaire en Amérique latine. Et on va dire que c'est les mêmes agents qui font le coup d'État de nouveau, donc la deuxième dictature, la deuxième vie d'extrême droite qu'on a vécue, quoi. Mais un peu différent.
Mais au niveau du peuple, les polarisations, elles se définissent comment un peu?
Alors le Brésil, c'est un pays vraiment spécial à ces niveaux, parce que tu peux aller dans des endroits très pauvres et avoir des gens qui sont Bolsonaro, Lula, et avoir des protestants, et avoir des protestants Lula et Bolsonaro. Donc je ne dirais pas que la polarisation, c'est destiné à un clan ou d'autres clans, tu vois. Je pense que c'est vraiment un bordel généralisé et qui dans des campagnes, dans des cités, parfois tu vas avoir ça plus en évidence, parce que il y a des leaders religieux qui sont sénateurs, qui sont députés, et qui aujourd'hui, on dit que la bancada da bala, c'est des gens, bala, c'est la balle, quoi, comme le coup de fusil. Donc on dit qu'il y a le côté qui sont armamentistes, je ne sais pas si on utilise cette expression non plus, les protestants, qui ont dit que c'est la bancada da Bible. Et il y a les ruralistes, qui sont des influences très, très riches, quoi. Donc, je pense que cette influence de la colonisation, elle a beaucoup resté. Cette chose de, tu as une grosse entreprise, une grande église, une grande affaire qui les fonctionnaires doivent suivre presque. Donc, tu as un mouvement qui suit encore cette chose hiérarchiste et verticale, quoi. Après, ce que je disais au début, c'est ce mouvement mondial arrive au Brésil très fort, je trouve. Cette demande, cette soif pour égalité entre hommes et femmes, des sexes, des peuples autochtones. Et je pense que c'est là-dessus que ça s'y joue énormément. Lula, il est devenu un peu l'emblème de cette caste qui cherche une résolution pour les problèmes sociaux. Et Bolsonaro, il représente les militaires. Il y a eu plus de militaires dans le gouvernement de Bolsonaro que pendant la dictature militaire. Donc il représente le conservadorisme lié beaucoup aux Américains, lié beaucoup à cette, on dit, complexe de vira-lata, donc qui toujours, c'est mieux que ce qui vient de l'Europe, ce qui vient des États-Unis.
Et des blancs aussi.
Ouais, bah, au fait, dans le pouvoir, il n'y en a pas de noirs. C'est très rare, quoi. Tu vois, si tu vas dans le tribunal fédéral judiciaire, il y en a eu un noir, qui, je pense qu'il n'y en a plus là. Je pense qu'il n'y en a plus. Je pense qu'ils sont 14, 16. Il n'y en a aucun. Tu vas dans les députés et tu vas trouver 10 pendant 100. Non, les députés sont 500, 600. Tu vas trouver 10, 20, je ne sais plus. Et c'est pour ça que c'est là que ça s'y joue, c'est que pour la première fois, avec Lula, était élue la première transsexuelle. Je pense même qu'elles sont trois. Je ne sais pas si c'est pas au sénateur. sénatrice. Je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il sait, mais je sais que pour la première fois, on a un ministère des peuples autochtones, donc le ministère des peuples indigènes. Bolsonaro teme quand il fait le coup d'État, déjà avec Bolsonaro et tous ces gens, il a effacé, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'entre 7 et 13 ministères. C'était même pas est-ce que ça c'est une question ou pas. Ils ont tout simplement effacé tous ces ministères et ont bloqué toutes les argumentations des fonds pour la santé, éducation et tout ça. Donc c'était vraiment catastrophique. Donc presque, ils ont fait tellement de dégâts en 6 ans, Bolsonaro et Temer, que Lula, la première année, c'était presque un peu remettre tout en ordre. Ce qui était déjà un travail assez long, j'imagine.
Et ça a réussi? Ils en sont à peu près revenus à l'état d'avant?
Le Brésil est redevenu la 9e économie mondiale en un an. Les résultats sont vraiment absurdes. C'est vraiment absurde. Déjà, rien que les comptes de Bolsonaro et Lula de première année de mandat, c'était scandaleux. Ils ont une espèce de carte corporative pour utiliser de manière personnelle, comme tu veux. Et Bolsonaro, il utilisait des milliards d'argent. C'était en tout cas absurde. Et tout le monde disait non, mais c'est partout pareil. Et Lula, il a donné un bon exemple cette année d'utiliser vraiment, on va dire, normal, quoi. Et je pense que c'est encore à ça que ça se joue. Je pense que ça se joue encore à ne pas enlever de l'argent de la santé, à ne pas enlever l'argent de l'environnement, du travail, des choses vraiment très basiques. Donc du coup, je ne pense pas que c'est une espèce de partage entre extrême droite, droite, centre, pour clan, pour religion, tout ça. Je pense que c'est plus pour les gens qui sont dans une position qui se retrouvent déjà bénéficiés et qui du coup sont plus en accord que ça se maintienne, et des gens qui sont dans cette lutte avant la dictature, finalement, parce que c'est les mêmes agents. Ça, c'est très... J'imagine que c'est un peu partout pareil. C'est des familles qui se maintiennent dans le pouvoir et des vieux personnages qui se perpétuent là et qui s'y auto-gère et qui s'y auto-donne des salaires milliardaires. Les gens ils considèrent que la gauche, c'est un truc plus lié à un socialisme colonial, mais ce n'est pas vrai. C'est l'époque qui a eu plus de... que l'économie a plus évolué, qu'il y a eu plus de développement. C'est quand ils ont retrouvé une réserve de pétrole et grâce à des recherches... Qui justement les États-Unis n'ont pas voulu mettre de l'argent, donc ils ont mis de l'argent dans ça. Après, il y a eu des gros scandales de corruption derrière tout ça, mais pour moi, un peu pour cacher le fait que le moment que le Brésil a découvert cette réserve de pétrole, ils ont fait un coup d'État sur la gauche, Temer il rentre dans le pouvoir, et en quelques mois, il y a comment dire, privatisé cette partie du réserve de pré-sal. Donc du coup on parle plus de ça, mais en gros ces coups d'État, comme c'est pas l'Afghanistan et l'Irak, c'était la guerre, et c'était une guerre qui perdure jusqu'à aujourd'hui, très triste, un massacre. Ici c'est vraiment un coup d'État institutionnel. Par contre le massacre, il y a silencieux. La guerre, elle est civile, elle est silencieuse. C'est pas les États-Unis qui viennent tuer les peuples pauvres, le peuple qui s'y maintient contre ce mouvement, c'est la propre police militaire du Brésil. Et Bolsonaro, il dit ça très clairement avant d'être président, quand il était député, où il disait il faut tuer au moins 30 000 personnes, de toute façon, les homosexuels, les indigènes et tout ça, c'est des gens qu'on doit tuer pour continuer tout ça.
Ouais. Tout à l'heure, tu me disais justement qu'avec ce qui se passe à Gaza en ce moment, le mot génocide, il est utilisé et ça fait justement un peu un effet miroir avec la situation de ce qui se passe ici, notamment avec les peuples autochtones.
Même en Ukraine, je rappelle qu'on était en France et ça commençait cette discussion des bombardements en Ukraine et qu'il y avait très peu de victimes. Bon, je veux d'abord dire que je suis vraiment solidarisé pour tout ce qui se passe avec tout le monde. Je pense que c'est pas ça la grande question. C'est plus le jeu médiatique et les importances qu'on donne suivant ce qui se passe et pour qui ça se passe. Mais c'est déjà écrit sur plusieurs documents que le génocide des peuples autochtones américains, c'est le plus gros génocide de la Terre. Et ça continue. Et ça continue justement sans aucun... Les gens parlent de l'Amazonie en France. Ils pensent à des oiseaux, j'imagine, tu vois. Il y a non, parce que l'Amazonie, il y a une forêt, il y a une plante, des oiseaux, mais il y a des gens aussi, il y a un peuple. Et ce peuple, il est massacré, ça fait longtemps. Et bon, je pense toujours que le peuple qui manœuvre cette chose, c'est vraiment des gens au-delà de la patrie. On ne parle pas d'Europe, de France. Ça peut être, c'est des gens qui ont de l'argent et qui ont le pouvoir, peu importe où ils y sont. S'ils sont à Atlantida ou, tu vois, dans la Lune, bientôt ils y seront. Mais comme je dis, ce n'est pas un manque de respect. Mais ce qui se passe à Gaza, c'est très sérieux, c'est très compliqué. Le génocide du peuple palestinien. C'est un génocide, il faut traiter comme ça. Ce qui se passe dans cette région, au-delà de l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui on parle de l'Ukraine, mais il y en a eu pendant la dissolution de l'Union soviétique, plusieurs pays là-bas qui ont été massacrés et qui ont passé pour des processus de génocide. En Amérique latine et en Amérique... Dans l'Amérique du Nord, apparemment, ils ont réussi, quoi. Ils disent ça, non? Ils disent qu'il n'y a plus des indigènes à beaucoup d'endroits. Ils ont réussi à tuer tout le monde. Et les réserves sont à haut. C'est privatisé. C'est ce qu'ils veulent faire avec le Brésil. Enfin bref, c'est une question un peu plus ouverte. Parce qu'il y a quelques années, il y a eu un grand désastre. Un barrage la plus grande... C'est Spiritus Sainte, je crois. C'est frontière, mais à la Val do Rio Doce, il y a aussi un ménagerage. Et ça, la barrière qui se casse, et ça détruit toute la nature. Jusqu'aujourd'hui, il y en a encore des enfants qui mordent des cancers liés à ça, des fœtus, c'est un scandale. Et je rappelle que j'étais en France et que tout le monde en France disait « Ah, j'aimerais bien que le Brésil soit responsabilisé pour les crimes écologiques qu'ils font et tout ça. » Bon, c'est une opportunité pour dire aux Français que la Val do Rio Doce est française. Elle a été privatisée et c'est des compagnies françaises et hollandaises. Enfin bref, l'important c'est que ça continue à être des Européens. La Petrobras... peut-être américaine, mais aussi européenne. Donc, du coup, pour se rappeler que le processus de colonisation, elle est toujours très évidente, tu vois. Et quand la discussion qu'on a évoquée tout à l'heure et qu'on parlait de ça, c'est que quand je disais que la personne, elle était complètement révoltée contre la Russie, elle disait, non, mais la Russie a bombardé la Ukraine. Du coup, je dis, bon, je pense que le problème, c'est l'OTAN pour moi. Et ça, l'a révoltée encore plus. Ouais, mais c'est pas une explication pour faire ça là-bas. Du coup, je dis, mais bah, la France est la deuxième plus grande productrice d'armes, apparemment. L'OTAN n'est pas responsable de ce qui se passe. Autant à Gaza, autant à Ukraine qu'en Amérique du Sud. Et ça, on est très conscient. Comme je disais, Dilma, elle est élue parce qu'elle a séquestré un dictateur pendant la dictature militaire, que c'était l'ambassadeur américain qui venait ici et qui a donné l'ordre de destituer le président qui était communiste. Donc du coup, c'est pour moi un grand jeu médiatique qui, parfois, quand ça nous touche d'une manière plus proche, une question plus sensible... Mais en tout cas, ce n'est pas que le peuple autochtone, c'est aussi le peuple des favelas ici, que tu vois dans la rue. Je disais, à l'entrée d'Olinda maintenant, il y a ce qu'ils appellent la Cracolândia, qui à São Paulo, c'est devenu la moitié de la ville, du centre de centre-ville. Donc, c'est un processus aussi de...
Tu parlais des gens qui dorment dehors et qui se droguent.
Ouais, il y a bah, un peu comme aux États-Unis des années 30, qu'ils ont jeté l'héroïne dans des quartiers pauvres, noirs, après ces mouvements de sortie d'esclavage et tout ça. Et ils ont créé le crack aussi un peu dans cet objectif, sauf que le crack, ça a marché. Donc le crack, c'est quand tu vas à la Cracolândia, tu retrouves des anciens profs universitaires qui ont tombé dans le crack et qui habitent là-dedans. Et du coup, c'est plein de gens qui sont dans la rue. Le gouvernement ne sait pas quoi faire. personne ne sait quoi faire. Donc ils habitent dans la rue, ils fument du crack dans la rue. Ils ont très peu d'expectatives de vie. Et ils volent, font des petits vols dans tout le village. Ce qui crée une situation compliquée avec la police qui ne peut pas répondre au fait qu'ils sont dans la rue en train d'utiliser ça parce qu'ils ne sont pas des trafiquants, ils sont des usuaires, on va dire. Et en même temps, la population qui vole, les taper, quoi. Qui vole, tu vois, il y a quelqu'un qui rentre chez toi. Il y a eu des scènes horribles, des gens qui me prenaient parfois des gamins, tu vois, des 14 ans, et qui tu le jettes au milieu d'une rue, et que tous les voisins tabassent au milieu de la rue, parce que justement, il y a une situation d'insécurité générale. Donc, ces processus des génocides, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a une guerre avec des armées internationales, l'OTAN, la Russie, tout ça, et qui font une guerre et qui tuent. Il y a aussi une autre guerre civile, financée par un intérêt économique qui c'est une implosion sociale et qui te jette ton peuple contre ton peuple et qui s'y auto-tue. Donc, je n'ai pas le temps de faire un jugement de valeur. En tout cas, ce que j'ai disais dans cette discussion, c'est malgré toutes les bombes incroyables qui coûtent des milliards d'euros et que c'est peut-être la vraie cause de tout ce théâtre, parfois, parce que quand tu jettes une bombe qu'il n'y en a pas de mort, bah, c'est pas parce qu'ils ont loupé le coup, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu. Maintenant, il y a des drones qui, à 500 km, ils trouvent le donc, ouais. Donc, il y a une vraie envie, une vraie volonté dans le truc. Par contre, quand tu as un quartier qui a que des gens qui sont cousins ou potes et qui ont grandi avec, et qui, du coup, si entretuent avec des couteaux, pas des bombes de milliards, et qu'il y a beaucoup plus de morts à Pernambouc dans le département. Il y en avait, pendant la guerre d'Irak, le double des morts que la guerre d'Irak par jour, pendant 3 mois. Hein. Ce n'était pas une exception. Tu vois. Donc du coup, je comprends qu'il y a la guerre d'Irak. Elle dit, ah non, c'est tout le Brésil. Non, c'est Pernambouc. Parce que les gens ils vont dire, ah non, mais la taille du Brésil. Non, c'est Pernambouc. Et si on prend toute la taille du Brésil et on fait la taille de l'Europe, ça va devenir ridicule, la quantité de morts.
Bon, Benjamin, une petite note d'espoir pour finir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon? Qu'est-ce que les gens espèrent peut-être pour ces prochaines années?
Bah, la note d'espoir, c'était l'élection de Lula. Parce que quand l'extrême droite elle est revenue, on a vraiment... Et je disais, mon oncle il a écrit un bouquin qui parlait de ça. C'était une dépression sociale. Tout le monde a dit, putain, malgré le fait de militer, d'arriver là et de faire tout le truc qui a marché et tout. Et ils ont arrivé, et avec un stylo, plus rien. Donc Lula, il est revenu, ça a mis en place aussi, comme je disais, le ministère des peuples autochtones, le ministère des femmes, le ministère de l'égalité des genres. C'est des choses qui n'ont jamais existé. Je me demande si ça existe ailleurs. Mais donc du coup, je pense que ça, c'est un grand espoir. À vrai dire, j'ai dit tout ça plus comme une espèce de rendre-compte, mais peut-être que je suis une des personnes qui a plus d'espoir dans ce truc. Je pense que, que la collectivité des émissions de radio, de podcasts, de manière de toucher les gens autrement et de ramener une communication qui ne passe justement pas pour tous ces médias qui mettent plus en évidence une bombe de milliards d'euros et tout ça, et tous ces jours. Raoni, là, qui nous loge, il disait ça, il disait, à vrai dire, toute cette chose, elle va continuer si on n'a pas un regard... d'espoir sur cette gestion médiatique et de comment on va faire ces choses. Donc pour moi, la note d'espoir, c'est ce qui est en train de se passer. Le Brésil, il a repris ses compromis avec les peuples autochtones, avec toutes ces minorités. On va dire qu'ils sont des minorités dans le papier, mais à vrai dire, ce n'est pas de minorité, c'est le peuple qui généralise. Et qui commence à prendre plus de place. Ça commence à s'y mettre en place. Aujourd'hui, la réalité du Brésil, c'est très trash. C'est très violent. Pernambouc, il y a beaucoup de vols. Donc, tu vois que le dégât de ces 6 dernières années, il est là et ça se voit. C'est pas facile. Mais qu'en même temps, aujourd'hui, on a des représentations des peuples autochtones qui utilisent le coca, que c'est le chapeau à plumes des indigènes dans le Parlement. Donc du coup, je pense que là, petit à petit, l'oiseau fait son nid, la représentativité rentre dans ces disputes, dans ces communications, et que les moyens de communiquer et de faire excentré et de manière alternative, ça argumente aussi. Donc, Inch'Allah, ça marche.
Merci, Benjamin.
Merci à toi, Antoine.
Des nouvelles du Brésil. Notícias do Brasil.